Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Elite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, c'est Jessica, dénommée présidente de Pop Underwear, qui vient nous dévoiler ses secrets. Entre ventes flash périodiques et stratégie marketing assez développée, on décortique les trucs de la fondatrice. Bonne écoute! L'étape du checkout est à PayPal ce que la recherche est à Google. Voici les mots de Dan Schulman, CEO de PayPal lors de la conférence Bank of America Global Technology. Pourquoi je vous parle de PayPal? Eh bien, un article de eMarketer est sorti à son sujet et révélé que seulement 50% des gens qui passent à l'étape d'achat choisissent PayPal lors du checkout alors qu'ils ont un compte PayPal. Grossièrement, vous avez une population d'abonnés au transport en commun et la moitié de cette population préfère marcher plutôt que de prendre l'autobus. Un comble. Pour pallier ce manque évident, Dan a souligné trois grands axes d'amélioration. Numéro 1, diminuer le temps de transaction. Forcément, plus c'est long, plus vous générez de friction. Ici, le CEO de l'entreprise a annoncé être en mesure de réduire cette étape de plusieurs secondes cette année même. Ce n'est pas rien. Numéro 2, éliminer les mots de passe. À mon avis, c'est un fléau qui touche pas mal de monde. Il est effectivement beaucoup plus simple d'oublier ses mots de passe en multipliant nos comptes sur différentes plateformes. Le problème, c'est que PayPal est victime de ce phénomène et que face à lui, il y a la possibilité de payer avec sa carte. Donc, pas de mots de passe et de email de récupération. L'article mentionne que même Apple, dans ses prochaines versions, vous offrira la possibilité de vous connecter grâce à une clé unique plutôt que des mots de passe. Et numéro 3, étendre le BNPL, c'est-à-dire le Buy Now, Pay Later. Acheter maintenant et payer plus tard, littéralement, car c'est une tendance qui prend l'expansion dans le commerce en ligne. Aux États-Unis, seulement cette fonctionnalité s'est vue croître de 77% en une année. Pour 2022, on peut dire bonne chance à PayPal. Dans une chronique précédente sur TikTok, je parlais du TikTok Made Me Buy It, un hashtag gigantesque qui regroupe des millions de vidéos de consommateurs qui parlent de leur dernier achat soigneusement propulsé par la plateforme. Eh bien, le dernier grand gagnant à ce jeu, c'est Circool. Le journal Insider nous raconte que cette entreprise qui commercialise une bouteille d'eau vient tout juste d'être valorisée à 1 milliard de dollars et être mise en vente sur les étagères de la célèbre enseigne Walmart. Sans surprise, la recette de son succès réside en partie dans les réseaux sociaux. Bien que les deux fondateurs se défendent d'avoir payé des influenceurs pour en faire la promotion, une source d'ailleurs qui vient de Bloomberg, lorsqu'on se rend sur le hashtag Circool qui est à 700 millions de vues, on trouve beaucoup de mentions « Merci de m'avoir envoyé Circool gratuitement » ainsi qu'un hashtag Circool Influencer avec 453 millions de vues à nouveau. Loin de moi l'idée de chercher le vrai du faux. Et si je vous en parle, c'est surtout pour vous transmettre le contenu généré sur la plateforme, du contenu qui inspirera assurément nombreux d'entre vous à générer à votre tour des vidéos de démonstration de produits efficaces. Force est d'admettre que quand ta valorisation boursière est à 1 milliard de dollars, les choses fonctionnent bien pour ton entreprise. Autre grosse nouvelle du mois de juin sur laquelle on va passer rapidement. Shopify se lance dans les audiences similaires. Pour avoir les deux pieds dans la publicité en ligne, je dois dire que c'est une nouveauté très intéressante à suivre. Pour l'instant, le service est destiné aux plus gros commerces en ligne, donc les Shopify Plus. Celui-ci vous permet de créer une audience similaire aux gens qui ont acheté tel ou tel produit chez vous sur l'ensemble des Shopify qui vendent la même chose. Pour l'instant, cette audience ne sera utilisable que sur le Facebook Ads. Avant, les annonceurs Meta pouvaient avoir une audience lookalike, ou du moins une audience similaire, basée sur le conversion de leur propre site. Maintenant, c'est l'ensemble des sites Shopify qui vendent les mêmes produits que vous. L'exclusivité avec Meta n'est pas anodine. Au-delà de la puissance de la plateforme, les dirigeants des deux entreprises sont passés par les mêmes problèmes suite à iOS 14 et à la perte de signal et de tracking. Forcément, ça rapproche. D'ailleurs, je voudrais vous parler aussi d'un article d'Insider sorti récemment qui parle de Shopify et de sa culture entrepreneuriale. En fait, Insider a découvert que Shopify poussait ses employés à posséder une entreprise à côté de leur emploi chez Shopify. C'est une culture bien installée grâce à des compétitions entrepreneuriales à l'interne, mais aussi un budget de 1000 $ accordé aux employés pour payer des charges relatives à leur propre commerce sur Shopify. Beaucoup de dirigeants de la compagnie ont un Shopify de leur côté, notamment le CEO Arlie Kinkelstein avec l'entreprise Firebelly Tea. Arlie expliquait que gérer une autre entreprise sur Shopify lui permettait de mieux connaître les utilisateurs du service et de l'améliorer par la suite. Un double bénéfice. D'ailleurs, il arrive souvent que les employés finissent par quitter l'entreprise pour gérer à plein temps leur nouvelle activité. Je vous mets l'article dans les notes de l'émission, c'est très inspirant. On termine avec Amazon, un autre petit acteur du commerce électronique dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Blague à part, des documents internes ont fuité dans lesquels on pouvait lire que le géant américain allait ouvrir sa prochaine marketplace en Belgique en septembre 2022. Toutefois, 4 autres pays devraient suivre avec le Chili, la Colombie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de marketplace? Très simplement que les vendeurs belges pourront utiliser toute la puissance logistique du groupe qui construit déjà des entrepôts dans la ville d'Antwerp. L'autre nouvelle intéressante, c'est l'annonce du Virtual Try-On for Shoes, une fonctionnalité pour les détenteurs d'iPhone aux États-Unis et au Canada qui permet simplement, via l'application Amazon, d'essayer des chaussures sur vos propres pieds via la réalité augmentée. Ça fonctionne exactement comme un filtre Snapchat, Instagram ou TikTok, sauf que c'est pour vos pieds. Sur les quelques vidéos que j'ai eu la chance de visionner, le rendu n'est pas exceptionnel, mais on comprend aisément l'idée et c'est une technologie qui va s'améliorer d'année en année. Amazon multiplie les services virtuels du genre pour se placer à terme comme LE commerçant électronique qui vous fait tout essayer depuis chez vous. Affaire à suivre. L'urgence est une des techniques marketing les plus utilisées et les plus fonctionnelles quand on veut écouler un grand lot de produits. On donne une date limite à notre vente ou encore on donne un échantillon limité de nos items et automatiquement on impacte positivement notre volume de transactions. Sur l'épisode du jour, je m'entretiens avec Jessica Dénommé, fondatrice de Pop Underwear. Dans la conversation d'une vingtaine de minutes, elle nous parle de l'approche qu'elle utilise depuis le lancement de son entreprise, une approche reliée au point mentionné plus haut. L'urgence et le nombre d'items limités. Une technique que tout e-commerçant peut réfléchir à mettre en place pour sa boutique en ligne. La discussion a d'ailleurs eu lieu lors du 8 avril dernier pendant la journée e-commerce organisée par l'agence Novatiz. Bonne écoute!
Merveilleux, donc, on termine la journée e-commerce avec un dernier entretien avec nul autre que Jessica Dénommé, fondatrice de Pop Underwear. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va super bien.
Je pense qu'il y a eu une journée riche en informations, beaucoup de conférences. Est-ce qu'au-delà de la conférence que tu as eu la chance de donner, ou du moins le panel dans lequel que tu étais intégré, est-ce que tu as eu la chance de regarder un petit peu les conférences aujourd'hui?
Pas aujourd'hui. L'année passée, oui.
Okay.
Je faisais partie.
L'année
passée, j'étais là en tant que spectatrice, je peux dire. Évidemment, pas en présentiel, mais c'était super cool. C'était très intéressant.
Puis le panel que vous venez de faire, c'était, il y avait Jérémy, je pense, qui était l'animateur. Vous avez parlé de marketing d'influence, encore une fois. C'était ça le sujet principal, je crois bien.
Oui, c'est vraiment le marketing d'influence. On a touché un peu plusieurs volets différents, plusieurs aspects du marketing d'influence, mais oui, c'est le tout.
C'est le tout. Fantastique. Jessica, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton organisation Pop Underwear. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé une citation qui était quand même assez intéressante que je voudrais mentionner aux gens qui vont écouter le podcast. Et je te cite, c'est en 2019 que nous avons décidé de mettre sur pied Pop Underwear, notre propre entreprise. Jessica Dénommé cherchait des sous-vêtements confortables et éclatés, mais elle ne trouvait rien qui lui convenait. Nous avons donc réalisé qu'il y avait un manque au niveau de ce secteur et que nous pourrions créer nous-mêmes des sous-vêtements de nos rêves, tout simplement. Ça fait plusieurs années maintenant que l'entreprise existe. Comment tout ça s'est déroulé depuis le départ? Peux-tu nous ramener un peu au lancement et comment tout ça a évolué à travers les années?
Ben oui, 100%. Dans le fond, ça fait 3 ans maintenant. Ben, le 1er mai, ça va faire environ 3 ans.
Félicitations.
Fait que oui, ça fait quand même un petit moment. Puis sinon, l'idée, c'était que moi, à la base, je viens vraiment d'un milieu marketing branding. Fait que ça, j'ai travaillé pour Jack & Jones, Molson, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies à ce niveau-là. Puis, à un moment donné, j'ai vu que ça allait bien, que j'étais bonne, que j'étais confiante. Je l'ai faite pour plein de compagnies. Je me suis dit, ben pourquoi pas partir de ma propre compagnie? Fait que l'idée initiale est vraiment venue de partir, tu sais, une compagnie. Puis, ensuite de ça, j'étais comme, tu sais, des sous-vêtements, c'est confortable. Mais des fois, ils sont pas tant confortables, mettons. C'était un peu ça, puis j'étais comme, c'est le fun parce qu'il y a vraiment un marché, oui, de sous-vêtements, mais un marché explosé un peu de funkiness, pas tant. Fait que nous, on est arrivés, moi et ma partenaire, les deux, on est quand même des personnes explosives, là, on est très fofolles. C'est ce qui fait un peu la beauté, je pense, de la compagnie.
C'est sûr.
C'est ça vient de là. fait qu'au début, quand on a commencé, on s'est dit, hey, ça pourrait être vraiment cool de créer des sous-vêtements vraiment misés sur être confortable, mais aussi aller à une autre place que ce que tout le monde fait et qui est, en ce moment, les sous-vêtements, à chaque fois que tu regardes pour des sous-vêtements, c'est toujours sexy. Nous, on était comme, tu sais, des fois, les personnes, oui, c'est le fun sexy, mais c'est intimidant aussi. On voulait l'amener plus d'une façon fun. Fait qu'on a décidé de partir des sous-vêtements le fun. Fait que tout simplement, on s'est dit, OK, on va mettre un fiche-moi la paix, puis c'est ça, ça va dire ça, puis ça va être un petit requin qui court après un poisson. Fait qu'on est allé vraiment dans une philosophie plus drôle où que tout le monde peut un peu s'identifier. Fait que si, admettons, toi, t'aimes le café, ben on a créé, admettons, un sous-vêtement qui était Wake Up Coconut, puis c'est tout des petits cafés avec des mood swings. Fait que, tu sais, c'est juste, on est allé plus à ce niveau-là, puis en même temps, vraiment d'aller dans le confort. Puis on a aussi, quand on a parti la compagnie, on a vraiment élaboré des nouveaux modèles. Fait qu'on avait comme la Tanga G-String taille haute, qui est un modèle qui existait quasiment pas là, à ce niveau-là. Puis même le tube avec les écritures, ça aussi, c'était un peu inexistant. Fait qu'on a vraiment... dans le fond, on a innové le confort. Je vais l'appeler de même.
Puis je pense que c'est important d'innover parce que c'est un marché qui est sensiblement compétitif. Là. Il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont présents. Peut-être, comme tu le dis, avec une approche davantage sexy qui peut, pour, j'imagine, certaines personnes être intimidant. Comment qu'on peut arriver, et ça fait 3 ans de ça maintenant, intégrer un marché autant compétitif et soutirer des parts de marché à des joueurs qui, j'imagine, ont des budgets marketing faramineux comparativement à ce que tu es capable, toi, d'investir en marketing?
Oui, ça, c'est certain. Ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. C'est important d'innover. C'est important de, si tu veux créer quelque chose que ne se soit pas fait. Fait que nous, oui, on a des compétiteurs directs. On va dire Calvin Klein, Lounge Underwear. Il y en a plusieurs directs, mais il n'y a personne qui fait vraiment ce qu'on fait. Il y a personne qui fait des petites illustrations avec des phrases drôles. Fait que c'est là qu'on est allé jouer. On est allé chercher une clientèle. Parce que il y en avait juste pas dans le marché. Fait que quand je dis d'innover, c'est vraiment important parce que c'est important de créer quelque chose qui est différent.
Définitivement. Bon.
C'est là qu'on s'est démarqué.
Puis également, on peut voir, bon, t'as une présence, c'est quoi? Je crois que t'as plus de 200 000 followers sur Instagram que j'ai été capable de voir. Donc clairement, ton personal branding va aider pour, bien entendu, faire connaître la marque.
Ouais.
Est-ce que ça a été ça, le moteur? Le moteur marketing pour Pop Underwear depuis le début?
Le moteur, oui. Ben, je peux dire, c'est sûr qu'on a commencé de cette façon-ci. Donc, oui, j'ai utilisé cette visibilité-là qui a extrêmement aidé. On va pas se le cacher parce qu'après ça, ben, tu sais, les médias aussi en parlent. Ah, Jessica, c'est partie d'une compagnie. Fait que j'ai un gros reach de visibilité à ce niveau-là. Par contre, c'est toute une question du produit. Est-ce que le produit est bon?
C'est sûr.
Pour le garder à long terme, il faut quand même que tu cherches des nouvelles stratégie marketing, il faut que tu t'innoves encore. Fait que nous, encore aujourd'hui, on cesse d'innover. Tu sais, on a été un peu les premiers à faire, à ramener, puis à faire, je dis à ramener, mais je pense pas que ça a été fait, mais des underwear qui glow in the dark. Fait que tu sais, c'est vraiment l'innovation, c'est vraiment de toujours... J'ai l'impression que beaucoup de monde qui ont un succès vont s'asseoir sur le succès de leur entreprise au lieu de toujours chercher à innover. Nous, c'est ce qu'on fait constamment.
Puis, c'est ça, d'un autre côté, ça peut se retourner contre toi quand tu as une grosse communauté et que tu lances un produit et que le produit n'est pas bon. Hein?
Oui,
parce
100%.
Que là, ça aurait pu se retourner contre toi. Dans le cas ici, je pense que ça s'est bien déroulé et même que j'ai été capable, en faisant mes petites recherches sur ton site Internet, vous avez un onglet qui est ambassadeur. On voit de plus en plus de marques maintenant qui vont travailler avec des ambassadeurs pour faire découvrir la marque. Comment vous êtes capable, vous, de créer cette synergie-là avec des clients qui, ultimement, vont devenir des influenceurs pour Pop Underwear?
Oui, en fait, c'est ça. Fait qu'on a un programme ambassadeur, que ça, c'est vraiment accessible à tous. C'est quoi qui est le fun avec les ambassadeurs? Puis ça, c'est sincèrement le meilleur canal de marketing. C'est que, oui, tu peux prendre des influenceurs, tu peux prendre le média, mais un ambassadeur, c'est vraiment une des forces, ben c'est la plus grande force du marketing parce que toi, si t'es ambassadeur avec Pop puis tu tripes sur la marque, tu vas en parler à ton meilleur ami, tu vas lui montrer. Ça a beaucoup plus d'impact que n'importe quoi d'autre. Fait que nous, on a été capable de justement créer un programme d'ambassadeurs. Fait que toutes les personnes qui tripaient sur la marque font partie d'être ambassadeurs. Puis maintenant, on réunit peut-être 500 personnes.
Wow.
ces 500 personnes-là, ben, il y a plein d'affaires qui se déroulent dans le programme d'ambassadeur. Tu peux gagner des prix, tu peux gagner des séjours dans des places. Puis cette année, on a comme plein d'affaires justement, vu que la COVID finit. Mais on a plein de trucs super intéressants pour eux. Fait que c'est vraiment cool. Puis eux, ça leur accumule un peu des points qu'après, ils peuvent obtenir des sous-vêtements gratuitement. Fait que tu sais, c'est vraiment des ambassadeurs de marque. Mais comme je dis, c'est le canal le plus important. Il faut vraiment pas le négliger.
Et comment tout ça se déroule? Donc, disons demain matin, je veux être... J'aime vos produits, je veux devenir ambassadeur pour votre marque. Amène-moi un petit peu dans le processus qu'un consommateur va vivre.
Oui. Bon, mais dans le fond, toi, tu veux être ambassadeur chez Pop, parfait. Tu vas nous envoyer un courriel. Ensuite de ça, il y a la belle Cassandra, qui est mon employée, qui va te répondre, qui va te dire « Parfait, tu sais, est-ce que tu serais capable de me dire pourquoi tu aimerais être ambassadeur? » Et voici ce que ça implique. Tu sais, nous, on te partage un code promo. Fait que le code promo, admettons que moi, ça va être Jess5, ben ça donne 5$ de rabais. Fait que je peux l'utiliser pour moi-même. Fait que c'est le fun parce que je suis ambassadeur de la marque, mais je peux également avoir des rabais sur la marque et je peux le donner à mes amis. Fait qu'eux utilisent le code et moi, ça me revient des points. Eux, ben, admettons, moi, je serais l'ambassadrice, ça me redonne des points. Puis, admettons, j'ai 5 ventes. Ben, nous, après 5 ventes, on te donne un ensemble gratuit.
Au-delà de ça, ce qui est de plus en plus fréquent pour des entreprises qui vendent en ligne, ça va être de travailler sur des campagnes publicitaires avec des contenus natifs. Des contenus littéralement que leurs consommateurs vont utiliser. Est-ce que ces ambassadeurs-là, à un certain point, vont parler de vos produits, vont faire peut-être des contenus unboxing de vos produits? Est-ce que d'un autre côté, vous pouvez utiliser ces ambassadeurs comme levier marketing pour des campagnes numériques que vous allez faire par la suite?
Exactement. Juste au niveau des Facebook ads, tu sais, on a des vidéos pub un peu qui partent, puis c'est vraiment les ambassadeurs qui parlent de la marque, qui sont comme moi, je ne vis que pour Pop. C'est littéralement les sous-vêtements les plus confortables. Fait que oui, on les utilise vraiment pour un 360. C'est vraiment le fun. Puis ils font partie, tu sais, c'est drôle, mais nous, on les intègre vraiment. Oui, un peu d'une certaine façon, mais les ambassadeurs, comme je dis, c'est vraiment ouvert à tous. Il y en a qui n'ont même pas d'abonnés sur Instagram. Instagram, c'est même pas pour eux un levier, là. Il y en a que c'est vraiment au niveau de à leur job, à leur école qui en parlent, puis c'est de même qu'ils vont chercher des ventes.
Bon, on a parlé d'ambassadeurs, on a parlé d'Instagram, mais il y a également YouTube.
Oui.
Vous avez une chaîne YouTube, bon, toi et Vainé Lefebvre, je pense bien, dans laquelle vous vous mettez en avant, vous mettez votre entreprise en avant, mais vous mettez également, vous parlez de vos vies personnelles.
Oui.
Et je pense que c'est important qu'on ait un personal branding de montrer les facettes qui vont bien de notre entreprise, les facettes qui vont bien dans notre vie, mais également les facettes qui sont un petit peu plus complexes. Et vous n'avez pas de gêne de vous montrer vraiment l'étendue de vos vies sur votre chaîne YouTube. Là, le marketeur en moi se pose la question, à quel point cette chaîne YouTube-là vous aide pour la commercialisation de vos produits, pour faire connaître la marque?
Ben c'est certain que YouTube, à la base, nous, on l'a parti vraiment d'un point de vue professionnel. Personnel, je peux dire professionnel, pour vraiment parce qu'on est deux personnes qui sont sur les réseaux sociaux justement, puis on est très transparentes, mais c'est certain que des fois on aime montrer justement l'arrière chez Pop. Fait que quand on a fait la tournée, on a vraiment fait un vlog de 3 parties où que tu peux voir comment ça se passe dans la tournée. Fait que hey, c'est difficile, il y a une fois qu'on a manqué un lit pour dormir, tu sais, tout un peu les arrières de l'industrie, parce que parfois les personnes peuvent penser qu'en regardant juste la compagnie ou peu importe, ou même suivez-moi sur les réseaux, ils se disent « Ah, oh, mon Dieu, ils l'ont facile. » Mais tu sais, être entrepreneur, il y a tellement d'embûches chaque jour. C'est tellement difficile. Chaque jour, il y a un problème. Fait que nous, on aime quand même vraiment être transparente sur les réseaux sociaux et le montrer. On aime faire des vidéos justement YouTube où qu'on va parler de ces problèmes-là ou qu'on va juste amener les bons coups qu'on a fait, mais aussi les mauvais ou qu'on s'est trompé, mettons.
Parlant de défis, d'enjeux, à quoi que ça leur ressemblait peut-être l'année 2021? Pour Pop Underwear. Il y a eu beaucoup de changements, puis ça a été des discussions très récurrentes tout au long de la journée ici sur les podcasts qu'on a été capable de faire avec les différents intervenants. Beaucoup de changements au niveau de l'environnement publicitaire. On parle d'une certaine crise publicitaire. Vous, vous avez la chance d'avoir un brand au niveau organique qui, j'imagine, vous génère certaines ventes. Comment tout ça s'est déroulé? Est-ce que ça a été des enjeux pour vous dans la dernière année ou, au contraire, vous avez été capable de passer à travers tous ces enjeux, toutes ces vagues, là, un petit peu de rebondissement?
C'est ça, c'est... T'sais, nous, veux pas, on est des sous-vêtements. Maintenant, on fait aussi des tracksuits colorés, mais on reste dans le confort. Fait que nous, la COVID nous a un peu aidés d'une certaine façon, parce que tout le monde qui était réticent à essayer Pop parce qu'il allait acheter des bobettes ailleurs ou peu importe, en fait, ben, gars, ça fait un an et demi que c'est la COVID ou ça fait un an que c'est la COVID, c'est le bon moment parce que je peux rien faire d'autre, puis je peux pas aller magasiner.
Bien sûr.
Fait que ça les a comme pas obligé, mais tu sais, ils ont décidé d'acheter puis d'essayer le brand. Fait que ça, pour nous, la COVID nous a un peu aidé à ce niveau-là. Mm. Puis au niveau de la publicitaire, ben comme tu as dit, au début de la pandémie, nous, on était très organique. Il faut savoir que Pop, on lance des capsules de collection. Fait qu'à chaque mois, il y a une collection qui sort et à chaque 48 heures, c'est sold out environ.
Oh, wow!
Ouais, fait qu'on n'a pas... là, on commence à avoir une formule plus evergreen. Ce qui veut dire que ça reste constamment. Il y a des produits qui vont toujours rester. Mais sinon...
Mais pour moi, plus de ça, je trouve ça totalement fascinant. Donc, ouais. Et là, bon... Tu as compris, je ne suis pas nécessairement client chez vous, là, mais il fallait que je comprenne un petit peu comment tout se déroulait au niveau de votre organisation. Donc, j'ai fait beaucoup de mes recherches et comme de fait, quand j'étais sur votre site web, je pense qu'il y a quelques jours de ça, on pouvait uniquement donner son email et le site web était fermé.
Ouais.
Et là, ultimement, bon, quelques jours plus tard, le site web était ouvert, on pouvait faire nos achats. Pour quelle raison vous avez pris cette approche-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire « on travaille sur ces approches un peu de lancement, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme? »
J'ai toujours aimé être exclusive. J'aime le fait que quelqu'un peut avoir quelque chose puis une autre personne ne peut pas l'avoir. Fait que ça a vraiment starté un peu, je peux dire comme ça. Ça a commencé comme ça. Mais en réel...
Ton background de marketing.
Oui, aussi, c'est ça vient le marketing. Mais au début, on a vraiment aussi sold out assez rapidement. Donc, après, ça a juste été propice à continuer ce flow-là. Et justement, on lance énormément de collections. On lance une collection par mois, des fois même deux. Fait que c'est énormément de travail à ce niveau-là, mais c'est le fun parce que ça rend le tout vraiment exclusif. Fait que aussi, à long terme, tu sais, je vais donner un exemple. Une de mes amies, elle a été mannequin pour la compagnie. Puis, elle s'est faite envoyer un DM sur Instagram d'une personne, d'une cliente de chez Pop qui voulait absolument le top qu'elle portait sur la photo, mais qui était sold out. Fait qu'elle y a offert le double du prix. Ouais.
OK, donc cette exclusivité-là, ben, clairement, hein, c'est assez évident que si certaines personnes seulement peuvent avoir accès au produit, ça crée une rareté.
Ouais.
Et ultimement, bon, les gens vont en discuter un petit peu entre eux. Mais au niveau organisationnel, au niveau logistique, ça crée pas peut-être des soucis de se dire, oh, si la prochaine collection ne fonctionne pas, on va peut-être avoir des enjeux de cash flow. Comment tout ça, parce que... Il y a le beau côté, mais j'imagine que le côté un petit peu plus difficile à ce modèle-là.
Oui, ben c'est sûr. Comme tu dis, mettons au niveau du cash flow, des fois, on peut avoir des petits problèmes si la collection va moins bien qu'une autre. Mais je trouve ça quand même vraiment cool d'avoir une formule exclusive. C'est quelque chose qu'on veut absolument garder. En ce moment, on est en train d'établir un evergreen, comme je viens de dire, qu'il va y avoir comme des modèles qui sont toujours présents. Fait que là, en ce moment, on a les classiques. Fait qu'un noir, un gris et
un kaki. On peut les acheter sur votre site.
Ouais, tu peux toujours les acheter à temps plein. Des fois, on ferme le site jusqu'à on sort une nouvelle collection de 2-3 jours, mais sinon, eux sont toujours accessibles. C'est vraiment au niveau des patterns funky qu'en ce moment, on garde vraiment une exclusivité. Et là, on est rendu dans les tracksuits et en août, qui s'en vient prochainement, on a quelque chose de très, très cool qui s'en vient.
Mmh. Et quand vous faites ces lancements-là, pour créer cette attente, là, bon, je le répète un peu, tu vas sur le site web, ou du moins, c'est ce que j'ai pu voir. On donne notre adresse email et ultimement, j'imagine qu'on reçoit un email pour avoir accès à la collection. Est-ce que cette collecte de emails-là, vous allez investir des sommes publicitaires ou tout se fait encore en organique?
Non, on utilise justement vraiment, on est rendu plus Facebook Ads, Google Ads, les email marketing toujours. Fait quand il y a une sortie de collection, c'est sûr que tu reçois un courriel. Maintenant, on est rendu aussi plus SMS. C'est sûr que les données de courriel, c'est quelque chose qu'on essaie toujours de grossir, qui est extrêmement rentable puis super important aussi. Puis ça...
Donc, un blitz publicitaire, on va chercher un maximum d'emails et on fait des lancements sporadiques sur une fréquence de 1 à 2 fois mensuellement.
Oui, exact.
Assez impressionnant tout ça. Le dernier point que j'aimerais discuter un petit peu avec toi, Jessica, bon, il y a, j'imagine que le Q4 doit être un moment assez important pour vous. Pour beaucoup de boutiques en ligne, c'est un moment où est-ce qu'on va faire beaucoup de ventes avec le Black Friday, avec Noël et tout ça. Et d'un autre côté, on rentre en Q2 et souvent, Q2 et même Q1 est un moment davantage d'expérimentation pour faire des tests. J'imagine également, vous, peut-être que l'été peut être une bonne période également de votre côté. Qu'est-ce que vous allez tester là, dans les 90 prochains jours? Le Q2, ça ressemble à quoi de votre côté? Est-ce que ça fait partie un petit peu de ce volet expérimentation-là?
Oui, ben en fait, nous, comment qu'on procède, c'est très drôle parce que le Q4, comme tu dis, c'est beaucoup les Black Friday, etc. Ouais. On fait pas vraiment de sales, nous. C'est très rare qu'il y ait des sales, je sais pas.
Est-ce qu'il y a un lancement exclusif pour le Black Friday?
Non, même pas. Fait que nous, ben justement, qu'est-ce qu'on faisait d'habitude, c'est qu'en fin novembre, il y avait une collection qui sortait pour décembre. Décembre, il n'y avait pas grand-chose et janvier non plus. Fin janvier, on tombe à février, qui est la Saint-Valentin pour nous, qui est un gros, gros mois, le mois de février. Mais c'est ça. Fait que le Q4, pour nous, il est plus slow, je dirais. On a fait le Black Friday l'année passée, mais c'était vraiment la première fois en 3 ans qu'on faisait une vente. Mmh. Fait que sinon, on a d'autres procédures qui sont un peu plus comme des boîtes surprises. Fait que tu peux retrouver un peu nos extras de collection parce qu'il faut savoir que quand nous, on sort une collection, on se garde quand même un buffer parce qu'il y a des bris. Il y a des bris. Des fois, il y a des échanges de size. Si tu peux acheter un small, finalement, le small ne te fait pas, tu veux un medium. Mmh. Donc, toutes ces affaires-là, il y a des défauts de fabrication, you never know. T'sais. Fait qu'on se garde des extras pour ça et ensuite, on peut les passer dans des boîtes surprises. Fait que tu commandes, admettons, tes 16. C'est un peu moins cher, mais t'es sur une surprise. C'est pas vraiment lesquels que tu vas recevoir.
Intéressant. Donc, j'imagine le mot d'ordre d'innovation, comme tu le mentionnais un petit peu plus tôt, des nouvelles collections qui vont sortir, un lancement davantage Evergreen. C'est intéressant tout ça. Dernière question que je te pose, priorité, ça va être quoi la priorité dans les prochains mois pour vous?
Nous, ben c'est ça, ça revenait à l'autre point que j'allais aborder aussi. On est en grosse expansion aux États-Unis. Fait quand tu disais les tests, A-B tests, c'est vraiment en ce moment, c'est ce qu'on fait. Là. On est en gros A-B tests aux États-Unis.
Lancement exclusif encore?
Lancement exclusif, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est un peu différemment parce qu'on n'est pas pantoute connu là-bas. Donc, c'est des tests. C'est vraiment, on s'est gardé vraiment un inventaire pour les États-Unis pour faire nos tests.
C'est intéressant. Jessica Denomé, merci beaucoup d'avoir pris le temps cette fin de journée de la journée e-commerce qui est littéralement le dernier entretien qu'on va avoir pour le podcast. Merci beaucoup. Assez intéressant, fascinant même cette structure de lancement exclusif.
Ouais, très différent.
Très différent. Un peu de boutique le font. Bon, on peut avoir des lancements qui vont être sporadiques quelquefois dans l'année, mais d'avoir un modèle d'affaires 100% orienté autour de cette approche-là, c'est assez fascinant. Merci beaucoup de ton temps.
Merci.
Et ben, j'espère que les gens qui auront écouté les différents podcasts qu'on aura fait pour la journée e-commerce vont avoir apprécié le contenu. Donc, sur ça, je te souhaite une belle fin de journée e-commerce, Jessica.
Mais merci beaucoup, à toi aussi.